Chapitre 10e. La jeune femme rompit la première le silence et dit en soupirant : Tenez, monsieur, laissons ce sujet. Il veille en moi de trop douloureux souvenirs.
Oui,
oui, laissons ce sujet, madame. Car moi aussi, j'ai de pénibles souvenirs, et ces souvenirs, je les fuis comme une honte, comme une lâcheté. Car il est honteux, il est lâche, de sentir souvent sa pensée occupée de ceux que l'on hait, que l'on méprise. Ah! Madame, pour votre repos, ne connaissez jamais ce mélange de regrets, d'aversion et d'amour qui rend parfois la vie à jamais misérable. » La jeune femme écoutait son compagnon avec une stupéfaction profonde et croissante. En parlant de lui, il semblait aussi parler d'elle. Mais la réserve qu'elle devait nécessairement apporter dans ses relations avec un inconnu, l'empêchant de correspondre ainsi qu'elle l'aurait pu aux dernières confidences qu'elle venait d'entendre, elle reprit donc, autant pour dissimuler ses propres sentiments que pour tâcher de satisfaire sa curiosité de plus en plus éveillée. « Vous parlez, monsieur, d'aversion et d'amour. Comment peut-on aimer ce que l'on est? Une contradiction pareille est-elle donc possible? Et mon Dieu, madame ?» reprit l'étranger avec amertume et entraîné, malgré lui, par le courant de ses pensées. « N'est-ce pas une énigme, un abîme sans fond que le cœur humain? Depuis que le monde est monde, on a, je crois, parlé de l'attrait inexplicable que les caractères les plus opposés exercent parfois les uns sur les autres. Souvent, ce qui est faible cherche ce qui est fort. Ce qui est impétueux et violent cherche ce qui est doux et timide. Qui opère ces rapprochements? Est-ce le besoin de contraste? Est-ce le charme d'une certaine difficulté à vaincre? On ne sait. Pourquoi ces personnes, d'un caractère complètement opposé au nôtre, ont-elles cependant sur nous un empire inexplicable? Oh oui, bien inexplicable, car on les maudit, on les prend en pitié, en dédain, en aversion. Et pourtant, l'on ne peut se passer d'elles ou, si l'on s'en passe, on les regrette au moins autant qu'on les hait. Et lorsqu'on se met à rêver l'impossible, tout ce que l'on désirerait au monde serait d'avoir sur elles assez d'influence pour les transformer, pour leur donner nos goûts, nos penchants, qu'on leur reproche si cruellement de ne pas avoir. Mais hélas, ce sont là des rêves qui ne servent jamais qu'à faire momentanément oublier de trop tristes réalités. » En prononçant ces derniers mots, l'étranger ne put retenir une larme et resta pensif. La jeune femme se sentit de plus en plus émue. Elle l'avait été déjà par l'accent douloureux et sincère de son compagnon, pendant qu'il parlait de ses contrastes, qui engendre, pour ainsi dire, certaines attractions. Cette fois encore, l'étranger semble être l'écho de ses propres pensées à elle. Cette conformité de situation l'intéressait vivement. Aussi, voulant s'en livrer elle-même son secret, tâcher de pénétrer plus avant dans le secret de l'étranger, elle lui dit « J'ai, comme vous, monsieur, souvent entendu parler de ces contradictions. Elles me paraissent d'autant plus incompréhensibles que la seule chance de bonheur probable devrait se trouver dans une complète harmonie de caractère. » Mais soudain, la jeune femme s'arrêta, rougit, regrettant ces paroles qui pouvaient passer, et c'était bien loin de sa pensée, pour une sorte d'avance faite à l'étranger, lui et elle s'étant déjà plusieurs fois exclamés sur l'identité de leur penchant. Cette crainte fut vaine. Le tour de l'entretien avait jeté le compagnon de la jeune femme dans une préoccupation visible. À ce moment, la voiture s'arrêta devant les dernières arcades de la rue de Rivoli, et le cocher étant venu ouvrir la portière. « Comment ?» dit l'étranger en sortant de sa rêverie et regardant sa compagne avec surprise. « Déjà. » Puis faisant signe au cocher de refermer la portière, il dit « Madame, excusez-moi, j'ai bien mal profité des derniers instants de l'entretien que vous avez bien voulu m'accorder, mais involontairement, j'ai subi l'influence de certains souvenirs. Vous ne me refuserez pas, je l'espère, un dédommagement en me permettant de vous revoir et d'avoir l'honneur de me présenter chez vous. Pour plusieurs raisons, monsieur, ce que vous me demandez là est impossible. Madame, je vous en conjure, ne me refusez pas. Il y a, ce me semble, dans notre destinée tant de points de contact. J'aurai encore tant de choses à vous dire sur les causes de ce voyage au Chili que vous avez désiré connaître. Notre rencontre est enfin si extraordinaire que toutes ces raisons vous décideront, je n'en doute pas, à m'accorder la grâce que je sollicite. Je n'oserais pas insister au nom du petit service que j'étais assez heureux pour vous rendre autrefois et dont vous voulez bien vous souvenir. Je ne suis point ingrate, monsieur, croyez-le. Je ne vous cache pas que j'aurais grand plaisir à vous revoir et pourtant, peut-être devrais-je renoncer à cet espoir. Madame, que dites-vous ?
Voici ce que je puis vous proposer, monsieur. Nous sommes aujourd'hui lundi.
Eh bien, madame, trouvez-vous jeudi ici, sous ces arcades, à midi ?
J'y serai, madame, j'y serai.
Si au bout d'une heure je ne suis pas venu, c'est qu'il sera plus que probable, monsieur, que nous ne devrons jamais nous revoir.
Et pourquoi cela, madame ?
Il m'est impossible de vous en dire davantage, monsieur, mais quoi qu'il arrive, soyez du moins persuadé que j'étais très heureuse de pouvoir vous remercier d'un service dont je me souviendrai toujours.
Comment, madame ? Il se peut que je ne vous voie plus, je vous quitte et j'ignore même jusqu'à votre nom.
Si nous ne devons plus nous rencontrer, monsieur, à quoi bon savoir mon nom ?
Si au contraire, nous nous retrouvons ici jeudi, je vous dirai qui je suis, et si vous le désirez, nous pourrons continuer des relations commencées si loin d'ici et renouées par une rencontre bien imprévue.
Je vous remercie, du moins, madame, de cet espoir si incertain qu'il soit. Je n'insisterai pas davantage. À jeudi donc, madame.
À jeudi, monsieur.
Et tous deux se séparèrent.